Qu'il est Missiou, garde à Rem la Terre, sur les ondes de Radio Albigès. Rencontre avec le sénateur écologiste Joël Labbé. Interview réalisée à l'occasion de la 4e journée de la biodiversité qui s'est déroulée le jeudi 27 avril 2017 sur le campus Albi-Fontlabour. Bien le bonjour et bienvenue dans l'émission environnementale de Radio Albigès. Avant de retrouver l'interview du sénateur écolo Joël Labbé et des étudiants du campus Albi-Fontlabour, quelques informations à vous donner. Un produit phytosanitaire Kesako. Un produit phytosanitaire vient étymologiquement de phyto et sanitaire, la santé des plantes. C'est un produit chimique utilisé pour soigner ou pour prévenir les maladies des organismes végétaux. Par extension, on utilise ce mot pour désigner des produits utilisés pour contrôler des plantes, insectes et champignons. Ces produits font partie avec les biocides de la famille des pesticides. Du côté de chez nous, c'est zéro phyto dans notre agglo avec la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Dans le respect des mesures de santé publique et de protection environnementale, le Grand Albigeois et ses 17 communes se sont engagés à ne plus utiliser de produits phytosanitaires de type chimique pour éradiquer les herbes du domaine public. Alors, comment se passer de tous ces pesticides? Eh bien, la communauté d'agglomération de l'Albigeois vous donne quelques bonnes pratiques à adopter. Désherber manuellement, la recette, une binette et un peu d'huile de coude. Utiliser des désherbants naturels, l'eau bouillante salée, le vinaigre blanc ou bien le purin d'ortie pur. Dans votre potager, utilisez le paillage qui limite fortement le développement des herbes indésirables et l'évaporation de l'eau. Alternez les cultures en évitant de planter au même endroit deux espèces de la même famille deux années de suite. Ainsi, vous éviterez les maladies et les attaques d'insectes. Voilà, n'hésitez pas à retrouver ce petit document zéro phyto dans notre agglo via donc la communauté d'agglomération de l'Albigeois. www.grand-albigeois.fr ou bien facebook.com/grand.albigeois. Toute une brancade sous la zone des radios Albitzès. Tout de suite, on repart à la 4e journée de la biodiversité sur le campus Fontlabour pour retrouver le sénateur écologiste Joël Labbé. Monsieur Labbé, est-ce que vous pouvez présenter votre parcours qui vous a apporté jusqu'à donc, tenir cette conférence sur le zéro phyto et à présenter aussi cette loi sur le plan zéro phyto?
Oui, donc très rapidement, je suis Joël Labbé, sénateur du Morbihan, du groupe écologiste du Sénat. Voilà, donc j'ai été maire de ma commune pendant 19 ans, la commune de Saint-Nol, dans le sud de Morbihan. On était en démarche agenda 21 et dès 2006, entre 2006 et 2007, on est passé au zéro phyto sur ma commune. Il n'y avait pas du tout d'obligation, mais c'était nos convictions. Lorsque j'ai été élu sénateur en septembre 2011, j'ai suivi une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Ça m'a hyper conforté dans les convictions que j'avais déjà, mais j'étais devenu sénateur parlementaire, donc, et qui a la possibilité pour les parlementaires de faire des propositions de loi qui sont étudiées, débattues, et si on trouve une majorité, elles sont adoptées. Et donc, suite à cette mission, je me suis dit, il y a 10% de l'utilisation en France qui est pour le non-agricole, c'est-à-dire les collectivités territoriales sur leurs voiries, espaces verts et autres, et puis les jardiniers du dimanche, hein, enfin pour les jardins domestiques, donc ça fait, les deux cumulés, ça fait 10% de l'utilisation en France. Donc je me suis dit, il n'y a pas d'enjeu économique direct par rapport à ces sujets. Il y a des communes, dont la mienne, qui ont déjà démontré qu'on peut vivre sans pesticides, non seulement vivre aussi bien, mais vivre mieux. Et puis des jardiniers, je pense à Incroyable Comestible, à Jardiner au Naturel, démontraient qu'on pouvait produire ces légumes sans pesticides. Et puis aussi, évidemment, tous les maraîchers bio qui le font par définition. Donc, je disais, on était 10 tout à l'heure, donc trouver une majorité, ce n'est pas simple, sur les 348 sénatrices et sénateurs. Et je me suis donné un an pour y arriver, d'audition de personnes, d'analyse juridique aussi, pour que le texte puisse ne pas être contré par l'Europe et que les lobbies n'aient pas de prise dessus. Donc, on a trouvé une majorité. Et puis, le texte a été approuvé conforme à l'Assemblée ensuite. Applicable. Alors, les dates initiales, c'était 2020 pour les communes et 2022 pour les jardineries, pour la possibilité de vente au détail pour les particuliers. Et ces délais ont été ramenés au 1er janvier 2017 pour les collectivités. Donc là, c'est en vigueur, à savoir plus aucune collectivité ne peut utiliser de produits pesticides sur son territoire, en dehors des cimetières et des terrains de sport. Et puis, 1er janvier 2019, donc, les jardineries ne pourront plus vendre ces produits au détail, c'est-à-dire interdiction totale. Et d'ici là, il leur est imposé de mettre ces produits sous armoire vitrée, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait une personne qui soit formée en conseil pour les consommateurs. Voilà.
Donc, vous êtes ici pour sensibiliser le grand public, mais aussi les étudiants qui seront aussi... pourquoi pas des futurs agriculteurs ou des futurs employés d'un service parc et jardin. Oui. Justement, vous êtes étudiant, vous avez interpellé, vous avez peut-être vu et participé à la conférence que Joël Labbé a donnée au campus Font Labour.
Alors non, nous n'étions pas là hier, mais on a interpellé monsieur suite à la présentation de la biodiversité du maire d'Albi. Maire d'Albi, je crois.
Le responsable, voilà. Du service au parc et jardin.
Et du coup, on en a profité pour poser quelques questions, enfin, avoir plus de précision sur cette loi. On en a entendu parler, mais on avait des questions un peu plus précises, si vraiment cette loi était déjà appliquée dès 2017, par rapport aux produits phyto dans les magasins, est-ce qu'on pouvait encore accéder facilement à ces produits-là, oui ou non. Donc voilà.
Moi, en ce qui me concerne, la première prise de contact, ça a été vraiment pour féliciter purement et simplement M. Labbé d'avoir présenté cette loi. Voilà, parce qu'on est sensible à ce genre d'initiative. Voilà, pour un peu définir de quoi on parle, on parle d'éléments qui sont cancérigènes, mutagènes, qui peuvent affecter les fœtus de nos futurs enfants et tout ça. C'est en tant que père de famille ou autre, ou c'est des sujets qui nous concernent vraiment. Donc voilà, la première démarche en ce qui me concerne, c'était vraiment de féliciter les gens qui essayent de faire évoluer, malgré les pressions des financiers qu'il y a derrière, tous les grands groupes qui essayent de balancer leurs produits à tout va sur nos territoires. Voilà, de féliciter les gens qui essayent de faire évoluer en bien toutes ces pratiques dont on ne veut pas sur nos territoires, quoi, tout simplement.
Donc la bataille n'est pas finie, Joël Labbé, puisque vous menez encore d'autres actions, justement, mais plus au niveau européen, international, c'est bien ça ?
Oui. Et d'abord, pourquoi je suis ici ? Parce que je ne vais pas partout là où je suis demandé, parce que mon emploi du temps ne me le permettrait pas. Mais ici, c'est l'initiative d'un lycée agricole. Et c'était qu'un lycée agricole organise des journées de la biodiversité, je trouve ça extraordinairement encourageant. Puis un lycée agricole où il y a des formations à l'aménagement paysager également, directement impacté par la loi dont je suis responsable puisque j'en ai été l'auteur. Donc pour moi, rencontrer directement sur le terrain des enseignants, des étudiants ou des jeunes en formation, pour moi, on dit beaucoup que les politiques sont déconnectés par rapport à la réalité de la vraie vie. C'est un risque si on se laisse aller parce qu'on est dans les sphères politiques. Pour moi, c'est drôlement important de venir sur le terrain, de discuter en direct avec les gens qui se forment ou ceux qui mettent en pratique leurs difficultés et leur satisfaction aussi. Alors, beaucoup de jardiniers d'espaces verts qui me remercient parce que ça a changé leur manière de travailler et puis ça préserve aussi leur santé. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment très, très heureux d'être ici. Sur la question de l'Europe, on avait dit que pour l'Europe risquait d'empêcher cette loi d'être appliquée. En fait, on l'a hyper travaillée juridiquement avec des juristes de haut niveau, ce qui fait que malgré les lobbies, l'Europe n'a rien fait. Ce qui fait qu'en France, c'est obligatoire maintenant. Mais la France, c'est le premier pays qui a mis ce type de contrainte pour les collectivités et pour les jardins domestiques. Mais puisque la France l'a réussi, moi je vois toujours à l'inverse, parce qu'on nous dit toujours c'est la faute de l'Europe qu'on ne puisse pas faire ci, qu'on ne puisse pas faire ça. En fait, à l'inverse, quand on peut faire quelque chose sur un pays, pourquoi ? Alors on a un outil qui s'appelle la résolution européenne qui nous permet, en tant que parlementaire français, d'interpeller l'Europe pour que cette mesure, qui est une bonne mesure pour la santé, l'environnement, la biodiversité, les pollinisateurs, la qualité de l'eau, eh bien qu'elle soit appliquée sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors vous allez dire c'est ambitieux, c'est utopique, mais la loi elle-même partait de quelque chose qui était peut-être utopique. Par contre, lorsqu'on y croit et que ça va dans le bon sens, eh bien on y arrive et je me donne un an et demi pour faire en sorte que l'Europe s'en saisisse. Alors l'Europe ne va pas le décider au niveau européen, mais incite les parlements des pays européens à pratiquer la même chose qu'en France.
Pour ce faire, vous travaillez bien évidemment en lien avec plusieurs organismes et plusieurs structures, des associations, mais...
Oui, je vous ai dit que j'aimais bien le contact avec le terrain. Alors j'ai la chance d'avoir un réseau extraordinaire d'associations, de syndicats, d'ONG. Alors j'en cite quelques-unes, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, Génération Future, pour n'en citer que quelques-unes. Ce sont des associations qui ont des permanents et des permanents qui sont des jeunes de votre génération, qui ont une super formation et qui, par le passé, dans ces organisations, c'était avec les banderoles. Maintenant, c'est avec leur expertise technique et juridique. Et donc on travaille, pour nous qui sommes élus minoritaires, en lien étroit avec ces représentants de la société civile. Et ça nous permet véritablement de faire avancer les choses. Alors je pense aussi à une structure qui s'appelle Semence Paysanne, qui doit être connue par ici, sur la libération des semences, parce que tout est lié. On a aussi travaillé sur les semences de ferme, qu'elles puissent être échangées entre agriculteurs au plan national. Autant de choses qui sont travaillées en lien direct avec la société civile. Et il y a d'autres partenaires qui sont les scientifiques. La communauté scientifique, par le passé, travaillait dans les laboratoires, faisait leurs recherches et leurs découvertes, mais souvent ça restait au niveau du laboratoire. Moi, en tant que politique, je travaille en direct avec eux, les conclusions de leurs travaux, pour faire en sorte qu'on puisse le traduire sur les bases scientifiques en juridique. Pardon. C'est le cas, par exemple, des abeilles, les pesticides néonicotinoïdes qui ont un impact avéré sur les abeilles. Ça ne les tue pas, mais ça les déroute et elles ne savent plus rentrer à la ruche. Parce que les pesticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui touchent le système nerveux central de l'insecte. Et donc, il y a un scientifique qui s'appelle Jean-Marc Bonmatin, qui est la tête pensante française sur ces sujets, l'impact des néonicotinoïdes sur les abeilles. Mais ils ont, au niveau mondial, ils ont mené une étude complémentaire. Les abeilles, elles sont touchées, on le voit, parce qu'il y a le côté économique de l'abeille et emblématique de l'abeille, mais tous les insectes pollinisateurs sont touchés, mais aussi tous les insectes, la flore microbienne du sol, les vers de terre, les oiseaux insectivores. C'est un ravage. Et alors, évidemment, l'humain. Alors, ce scientifique nous explique que le système nerveux central de l'insecte, les vivants sont construits sur le même système. Nous aussi, on a notre système nerveux central pratiqué auprès des... Enfin, ou utiliser des pesticides, ça ne va pas foudroyer. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'effet cumulatif au long des mois et des années à être à proximité et à respirer ces produits. Eh bien, l'effet cumulatif fait que ça devient toxique. Et il n'y a pas que l'effet cumulatif, il y a aussi l'effet cocktail avec les autres molécules. Alors le cocktail, c'est par définition, c'est explosif et c'est absolument terrible pour la santé humaine. Peu de gens le savent encore, mais la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle dans le monde agricole par la Mutualité sociale agricole. Donc, pour moi, j'estime quand je fais cette proposition de loi, je suis juste dans mon rôle de responsable politique. Quand on apprend ces choses-là, quand on le sait, eh bien notre rôle, notre responsabilité politique, c'est de faire en sorte qu'on légifère dans ce sens-là, dans l'intérêt de tout le monde. Alors, un dernier mot sur la politique, parce que j'aime bien dire cette définition. Pour moi, c'est la meilleure des définitions de la politique, puisque je fais de la politique. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est des mots de l'abbé Pierre, qui en son temps a été aussi député. Et l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, c'est tout simple, c'est tout basique. Mais je crois qu'il est important qu'on revienne à cela au niveau politique.
Merci bien. Une question, une remarque, hein, oui.
Oui, moi j'aurais simplement voulu ajouter, suite au petit échange qu'on a eu, que quand on parle de politique et de ces sujets-là, de protection de l'eau, d'environnement et tout ça, on pourrait vite cataloguer les gens qui en parlent ou qui en font comme des utopistes, des gauchos et tout ça, alors qu'il a bien été précisé tout naturellement par M. Labbé, qui travaillait et qu'il avait eu un excellent retour et une écoute de politique aussi bien de droite que de gauche. Et c'est, à mon sens, de ça... Il faut que les gens se rendent compte de ça, qu'on est en train de parler d'un problème de santé publique. Alors, quelles que soient leurs convictions, après économiques ou autres, quelles que soient leurs convictions politiques, pour moi, c'est un sujet qui devrait, comme d'autres dans l'écologie en général, qui devrait rejoindre et fédérer plus dans la société, quelles que soient les orientations politiques des gens. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est nécessaire vraiment de préciser. C'est pas une exclusivité de la gauche ou des utopistes de vouloir faire de l'écologie. C'est vraiment quelque chose d'universel et sur lequel on devrait être plus peut-être informé, plus sensible et plus impliqué.
Monsieur l'abbé, vous êtes arrivé, donc, je crois bien, à Albi hier, donc mercredi 26 avril 2017. Donc Albi qui a été élue capitale de la biodiversité. Est-ce que vous avez eu le temps de vous promener dans nos rues et de voir nos trames vertes et bleues, voir nos faucons pèlerins, notre biodiversité locale ?
Alors, avant de venir, je suis allé sur le net voir ce qui se passait sur Albi et je trouvais qu'il y a des actions extrêmement intéressantes. Par contre, le temps que j'ai ici est court, mais j'ai eu des contacts avec des enseignants formateurs d'ici qui m'ont dit ce qui se passait sur Albi. Et je viens d'entendre le responsable des espaces verts en conférence tout à l'heure sur tout ce qui se passe sur Albi. Alors, y compris, par exemple, le fait que sur Albi, il y a des espaces verts où ils choisissent de faire pousser des variétés de blé anciens. Et ça, qu'une collectivité aille jusque-là, je trouve ça absolument fantastique et intéressant, parce que il va aussi falloir que l'on revienne aux variétés locales par rapport à leur adaptation au climat local et à tout ça, et repartir. On parle beaucoup de biodiversité qui est mise à mal, mais la biodiversité cultivée également, et ça rentre là-dedans, les diverses variétés, quelles que soient les plantes cultivées ou les céréales. Par le passé, il y avait des multitudes de variétés. Maintenant, là, il y a encore le lobby des semenciers qui fait en sorte qu'ils vendent des hybrides, de telle sorte que le paysan, il doit retourner chaque année acheter ses semences, et des semences qui sont uniformisées et qui ont besoin justement de chimie pour bien pousser, bien se défendre. Donc le retour à ces variétés anciennes, ça, c'est un des exemples. Et sur la question lien entre l'alimentation et la population d'Albi, la ville d'Albi ou le territoire d'Albi est sur une volonté politique exemplaire pour avancer aussi dans ce domaine, parce que les pratiques agricoles à ce moment-là vont évoluer. Préserver toujours, d'abord reconsidérer l'alimentation et l'importance de l'alimentation qui est un droit humain fondamental, tout en préservant la biodiversité, en améliorant la biodiversité et en étant justement rémunérateur pour les producteurs, parce que c'est scandaleux ce qui se passe actuellement avec une grande partie des agriculteurs qui sont à moins de 350 euros par mois. On l'a appris il y a peu de temps. C'est inacceptable, c'est intenable. Ce sont les gens qui nous nourrissent, et c'est justement par le retour de l'agriculture de proximité, les circuits courts. Alors, les circuits courts organiser, c'est-à-dire que les filières, il faut qu'on mette de l'argent public pour mettre en place des filières de proximité, de telle sorte que ce soit organisé et que ce soit créateur d'autres emplois, de nouveaux emplois, des emplois nobles, et ça redonne du sens d'ailleurs au métier d'agriculteur, producteur ou éleveur, parce qu'il a directement le contact avec la population qu'il nourrit. Il y a beaucoup d'avenir là-dessus. En France, comme en Europe, comme partout sur la planète. Cet après-midi, par exemple, il y aura la projection du film Demain, ici. Je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai participé à des débats. Donc ça montre que partout dans le monde, ce type d'expérience, que ce soit biodiversité, monnaie locale, agriculture urbaine, périurbaine, partout, en Amérique du Nord compris, tout ça, c'est en train d'exploser partout. Et ça, c'est drôlement encourageant pour l'avenir. Et nous, les politiques, il y a des domaines où la société va plus vite que nous. Du moins une partie de la société. Donc c'est à nous y intéresser direct, c'est aussi le but de mon voyage, pour qu'on puisse argumenter ensuite. Mais voilà, on sait le faire. Il y a des établissements d'enseignement qui enseignent comme cela à de futurs agriculteurs, à de futurs aménageurs en paysage. Ils sont complètement dans l'air du temps et dans la nécessité vitale pour la planète d'avancer vers là. Donc ce déplacement à Albi, pour moi, c'est encore un encouragement supplémentaire, parce qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain. Et ici, elle est dérangeante, cette loi. Personne ne me l'a reproché. Personne. Alors certes, pour certains, ça crée certaines difficultés, il faut s'adapter, mais là encore, les liens entre les communes font que les communes qui sont avancées peuvent faire part de leur expertise et expérience aux communes qui sont plus en retard. Et comme c'est la loi, tout le monde doit y aller. Et le mieux, c'est de ne pas y aller à reculons, de voir le côté positif des choses et le côté avenir de ces choses pour nos générations, les générations plus jeunes, et puis aussi les générations à venir qui seront la génération de vos enfants et les suivants.
La démarche est en route. Vous avez une remarque, une question à poser pour finir à Joël Labbé ?
Non, moi je voulais juste préciser que j'étais content de vous avoir rencontré, parce que d'avoir un interlocuteur direct comme ça, sans passer par le biais d'Internet ou autre chose, j'ai des infos qui maintenant sont beaucoup plus claires, et ne serait-ce que quand j'inviterai des amis pour manger ou quoi, on pourra avoir un discours et essayer de transmettre cette autre parole autour de moi avec précision. Ce sera plus clair pour moi et plus clair à expliquer les choses. Voilà, je vous remercie pour ça.
Merci.
Et puis c'est pour finir ou pas, c'est pas forcément anodin ce que tu dis, parce que c'est aussi par là que ça va passer, le fait de parler à nos amis. Avant toute volonté politique, on a avant tout le comportement des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils vont acheter, qu'est-ce qu'ils vont décider de manger, de faire manger à leurs enfants. Et sans vouloir faire le donneur de leçons, c'est vrai que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Il faut qu'on fasse nos choix au niveau de la consommation, quoi, tout simplement. On peut commencer par ça. Et voilà.
Bon, merci bien. Je vais vous laisser rappeler, donc vous êtes étudiant donc sur le campus Fond-Labour, ou rappeler votre filière.
Tout à fait, Nicolas, en travaux et aménagement paysager.
Merci bien, Nicolas. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Joël Labbé, merci bien, et donc bonne continuation et au plaisir.
Merci, bonne continuation à vous aussi.
C'était l'interview du sénateur Joël Labbé et des étudiants du campus Albi-Fond-Labour. Interview réalisée à l'occasion de la 4e journée de la biodiversité qui s'est déroulée le 27 avril 2017 sur le campus Albi-Fond-Labour. Radio Albi-Jazz, partenaire de cette journée, vous propose de retrouver ces émissions en podcast sur le www.radioalbijazz.com. N'hésitez pas à réagir à cette émission en envoyant un mail à radioalbijazz@gmail.com ou bien en laissant un message après le bip sonore au 05 63 60 60 02 Alcop Québec, per une autre émission, Gardarem la Terre, Al plaisir, brave monde.